Bonjour à tous, je suis Alice Vacher, je vous souhaite la bienvenue dans l'Empreinte. L'Empreinte, c'est un podcast unique qui s'intéresse à la révolution du sens. Moi, mon sujet de prédilection, c'est l'empreinte que peuvent laisser des entreprises sur notre planète. Chaque semaine, des PDG de grands groupes, des start-upers ou encore des responsables RSE répondent à mes questions pour essayer de comprendre ensemble comment les entreprises agissent aujourd'hui pour notre planète. Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'Empreinte.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Charles Samuelian-Werth, le cofondateur d'Alan, la première assurance santé digitale en France et la première assurance indépendante agréée depuis 1986.
C'est exactement ça, ouais.
Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. En plus, j'ai utilisé Alan et j'en étais très contente.
Donc, ça me fait vraiment plaisir, Alice.
Non, mais c'est vrai, j'aime bien parler des choses que j'utilise et que je fais. Et donc, je suis ravie de t'accueillir. Donc, tu as cofondé Alan avec Charles Gorintin.
Ouais.
C'était en quelle année ?
4 ans et demi, c'était en début 2016, donc bientôt 5 ans.
Et juste pour la petite anecdote, en 4 ans et demi, ils ont déjà levé 125 millions d'euros, c'est ça ?
On a levé 125 millions d'euros et surtout, ce qui nous rend fiers, c'est qu'on a maintenant plus de 100 000 membres depuis moins d'une semaine.
Énorme. Dont ouais. Moi
La plus importante.
Je compte triple. Non, mais c'est vraiment génial. Et je sais que tu as quand même un profil entrepreneurial puisque tu as monté ta première boîte à 22 ans.
Exactement.
C'était deux cofondateurs, je
on
crois.
On était trois cofondateurs à l'époque. C'était dans l'aéronautique et on a construit le siège d'avion le plus léger du monde pour la classe éco.
C'est quand même... est-ce que je me suis bien renseignée, mais j'ai vu que c'était suite au décès de ton grand-père que tu avais du coup décidé de te mettre dans la santé. Mais est-ce que c'était aussi un ras-le-bol de l'autre boîte ou...
Mon grand-père, c'était vraiment un catalyste, mais créer une boîte dans la santé, c'était ce que je voulais faire depuis que j'étais ado. Mes deux parents sont médecins, ont géré des services d'hôpitaux et je code depuis que je suis hyper jeune aussi, depuis que j'ai 12-13 ans.
Moi aussi.
Ouais.
Les geeks.
Ouais, c'est ça, mais c'était trop bien d'être geek ado, parce que tu découvrais tout le monde que tu pouvais construire.
Moi,
quoi.
Je pouvais détruire aussi plein de sites. Ouais, tu vas dans le HTT.
Je vais pas parler de tous les trucs que j'ai hackés à mon collège, parce que ça va se retourner contre moi, mais non, c'était assez magique.
Et après, du coup,
quand mon grand-père est tombé malade, je me suis dit, c'est un choix de vie, quoi. Est-ce que je continue à faire la même boîte avec des gens que j'aime beaucoup, ou est-ce que je fais le truc qui me prend en trip, ou je fais des nuits blanches, qui m'occupe la tête, qui essaie de corriger le système de santé. Et je savais pas comment j'allais le faire. Je savais pas exactement quelle forme ça allait prendre. La boîte, j'ai même pas de nom de boîte encore, etc.
Tu savais avec qui t'allais le faire ?
Non, même pas encore. J'ai juste décidé, je dois prendre du temps pour faire ça. Je dois m'arrêter et prendre du temps pour faire ça. Et c'était une des décisions la plus difficile de ma vie, si ce n'est la plus difficile, mais aussi la meilleure. Donc, c'est vraiment une chance maintenant de chaque jour, chaque matin, me réveiller et savoir que je bosse sur un truc qui me passionne plus que ce que je pouvais l'imaginer avec des gens extraordinaire, c'est vraiment...
Et comment t'as rencontré Charles, du coup ?
Charles, on se connaissait depuis 10 ans à l'époque, parce qu'on avait fait notre école d'ingénieur ensemble, et lui, après, était parti dans la Silicon Valley. Et on gardait vachement contact, et quand j'ai commencé à travailler sur la santé et comment utiliser le meilleur du design, de la technologie, mais aussi de la data pour la santé, Charles avait l'idée des équipes de data science chez Twitter à la fin. Je l'ai appelé pour réfléchir avec lui et la sauce a pris hyper rapidement et on avait cette même conviction que la santé devait être plus juste, plus transparente, plus personnelle. Et on a créé Alan pour faire
plus
ça ensemble.
Plus accessible.
Et plus accessible, exactement,
parce que,
à tous.
Pour avoir testé Alan, c'est vraiment c'est accessible et puis c'est réactif, c'est vraiment dans l'air du temps. Et est-ce que c'est une offre que tu as vue évoluer? Est-ce que tu savais qu'Alan allait devenir ce qu'Alan aujourd'hui?
Je pense qu'on est parti au tout début. Non, je ne savais pas. Après, ce que je savais, c'est ce qu'on voulait être dans 5 ou 10 ans, qui est être l'app que les gens utilisent et qui les aide à trouver la bonne information vraiment personnalisée pour eux, la bonne prévention personnalisée pour eux et le meilleur accès aux soins, que ce soin soit digital ou physique. Et une fois qu'on part de là, après, on a réfléchi à quel était le meilleur moyen pour y arriver. Et on s'est dit que construire l'assurance santé, l'assurance complémentaire santé, c'était le meilleur moyen pour commencer parce qu'elle est connectée à tout le monde, aux médecins, aux pharmaciens, aux hôpitaux, aux entreprises, aux individus, à nos membres. Et du coup, c'est un peu ce point central où toute la santé vient se concentrer parce que via les remboursements et qui nous permet au fur et à mesure d'ajouter des services. Donc ça a été un cheminement qui a mis un peu de temps à arriver à « il faut qu'on fasse ça », mais la vision long terme a toujours été la même.
D'accord, donc celle-là, elle a pas du tout bougé. Et bon, là, on a eu la crise Covid. Enfin, on est en plein dedans. Soyons on est masqués, là, actuellement, ouais. Quand on vous parle. Mesures de sécurité, hein, respectées. Et quel impact ça a, du coup, sur Alan, cette crise sanitaire?
Ça a eu il y a eu plusieurs phases. Au tout début, ça a été comment on accompagne nos membres à gérer le stress, à gérer l'information. On a créé en 4 jours un symptom checker pour les aider à naviguer, de l'information de qualité, pas anxiogène. Puis après, ça a été accompagner les entreprises, parce qu'on a 7000 entreprises clientes et ça grandit vite. Donc, on a décalé des paiements, on les a aidés à voir comment communiquer avec leurs salariés, etc. Et après, il y a eu la première période de déconfinement où on a envoyé plus de 50 000 masques à tous nos membres, très, très rapidement pour les aider. On leur a aussi accompagné là-dessus.
Et donc, tous les membres d'Alan ont reçu 50 000, mais ont reçu des masques.
Exactement. Ouais. 50 000 masques. Ça aurait été magnifique si on arrive à faire ça. Mais...
Où étaient passés les masques? On sait maintenant, on a découvert.
et ça, c'était ACG. Enfin, c'était en tout cas très important pour nous d'être là pour les gens. On a lancé un produit gratuit aussi, accessible à tous, donc pas que à nos membres, avec accès à de la méditation, accès à des cours de yoga en ligne, accès à la télémédecine. Et on a vu vraiment un usage de la téléconsultation augmenter, parce qu'on la propose gratuitement et illimité à nos membres. Et donc tout ça, en fait, ce qu'on voit maintenant et ce qui continue, c'est un, les gens veulent plus de contrôle de leur santé, de plus en plus. Ils en ont marre d'avoir cette information anxiogène qui est non contrôlée et qui arrive de trop de sources. Donc, un point central en qui ils peuvent faire confiance, avoir le contrôle, et la digitalisation de la santé avec pouvoir parler avec un médecin sous des médiums différents. Donc, nous, on a lancé du coup depuis un chat médical aussi. Donc, pour tous nos membres, chatter de manière gratuite et limitée avec des médecins.
Et du coup, des médecins qui peuvent être sur plusieurs plateformes ou juste exclusifs à Alan?
C'est des médecins qui ont une pratique en parallèle, mais qui donnent du temps à Alan pour chatter avec nos membres. On a toujours la téléconsultation vidéo, on fait de plus en plus de notifications de prévention. On a aussi vu que le rôle de l'entreprise était très important dans la crise et nous, donc, on accompagne beaucoup d'entreprises de toute taille, hein, de quelques salariés à milliers de salariés, de tout secteur. Ça va de des startups à des restaurants, des hôtels, des crèches, des SS2I, enfin, c'est tout et n'importe quoi. Enfin, rarement n'importe quoi, mais c'est tout. Et ça, les accompagner, en fait, on cherche à être leur partenaire pour qu'ils soient le partenaire de la santé de leurs salariés. Et ça, c'est vraiment important parce que aujourd'hui, tout RH se pose ces questions-là de j'ai une responsabilité sur la santé de mes salariés et comment je gère ça. Et là, nous, on est là pour les aider aussi.
Et justement, pour garder les talents, et je suis tombée sur un classement où Alan est dans le top 10 des startups qui attirent le plus de talents en 2020. Donc, c'est une série Mind, je crois. Qui a sorti ce classement et ça m'étonnait pas parce que le côté dynamique, sanitaire, etc. Et là, tu dis que toi, tu accompagnes finalement les entreprises et les RH aussi à garder les salariés, les rassurer. Comment fait Alan pour attirer autant de talents finalement? Tu m'as dit que tu avais un peu que vous embauchiez énormément.
Ouais, on a beaucoup grandi. On est passé de 165 à 250 là cette année. On va sûrement finir l'année à 280. Personne, donc on grandit vite partout en Europe et je pense qu'on attire les talents pour la mission, donc on a parlé,
le c'est sens, ouais.
Le sens, essayer de transformer le système de santé pour le rendre plus juste et accessible à tous et plus personnel. Ça, c'est vraiment le premier truc qui résonne. Le deuxième point, c'est vraiment la culture. Et, je viens de publier un livre sur ce sujet qui s'appelle LC Business, mais c'est la manière dont on travaille ensemble qui attire des gens que moi, je trouve extrêmement brillants, et ça, c'est une chance, et à qui on donne beaucoup de pouvoir. Et c'est vraiment eux qui prennent les décisions. J'aime bien dire qu'on est tous des despotes éclairés dans la boîte, parce que chacun doit être capable d'être totalitaire et prendre des décisions. Et dans un monde qui est radicalement transparent, c'est-à-dire toute l'information est accessible à tous, chez Alan, c'est ça qui attire. Et parfois aussi, il y a des personnes qui sont pas à l'aise dans un monde où on a beaucoup de responsabilités, où toute l'information est accessible, dont les salaires, etc. On a cassé le rôle classique du manager à la française, et on a supprimé ce titre, et on a créé un rôle de coaching, un rôle de direction de projet. Et ça attire beaucoup.
Parce que c'est vraiment dans l'air du temps. Aujourd'hui, on est tous consommateurs, on est tous indépendants, on crie haut et fort ce qu'on pense. Enfin, je trouve que la nouvelle génération, en tout cas, est quand même vraiment très Alan, on va dire, je vais dire uberisée, elle est alanisée. C'est vrai, finalement.
C'est la première fois qu'on utilise le mot, mais j'aime bien.
Tu vois, peut-être pas la dernière.
J'aimerais bien,
mais, mais je trouve que ça répond exactement à la demande et du sens et de l'innovation. Parce que c'est quand même une start-up qui est innovante, qui...
Je pense que les gens, en effet, veulent avoir de l'impact. Ils veulent que, quand ils se lèvent le matin, ils aient un impact sur le monde et que cet impact soit reconnu. Et c'est normal, c'est très humain. Et nous, ce qu'on essaye de fournir avec Alan, en termes de, à la fois, encore une fois, de ce qu'on construit, on essaye d'innover beaucoup. Et en effet, on accélère même là-dessus. Et de la manière dont on le propose, c'est important. Et on a encore du travail, mais qui est de plus en plus inclusive, et en tout cas, on s'y penche vraiment. Je pense pas qu'elle est faite pour tout le monde, et je pense qu'il y a une différence entre être universel et inclusif. On n'est pas universel, je pense qu'on n'est pas fait pour tout le monde, mais je pense qu'on peut attirer des profils extrêmement divers et qui soient extrêmement épanouis.
Et qui d'ailleurs se retrouvent peut-être pas ailleurs et qui se retrouveraient dans une culture d'entreprise comme Alan.
Exactement, et tu vois, par exemple, notre culture de l'écrit, de l'asynchrone, c'est-à-dire que les gens peuvent contribuer quand ils veulent. On n'a quasiment aucun meeting en interne. On a supprimé 99,9% des meetings. Ça fait que...
Très bien. Je me suis tellement ennuyée en meeting.
Ouais, c'est horrible. Non, mais moi
j'ai quitté l'entreprise à cause des meetings.
Mais tu n'es pas la seule et je te comprends. Et, mais tu vois, ça a plein d'avantages. Que ça fait que quand tu commences à prendre ces décisions à l'écrit, bah, des gens qui n'osaient pas s'exprimer avant en meeting parce que bah, ils n'aiment pas la pression du groupe, etc., où ben, ça fait peur. Et ben là, à l'écrit, ils peuvent exprimer leurs idées sont super valorisées. Ça permet aussi de dire que notre bureau, c'est l'Europe. Donc, en fait, on a des gens qui sont à notre bureau à Paris, mais des gens qui sont à Reims, à Nantes, à Marseille, à Toulouse.
Le siège est à Paris. Hein.
Le siège est à Paris, mais on a des gens partout en Europe et on n'a aucune imposition sur où est-ce que tu dois travailler. Parce que, et ça rajoute de la diversité et de l'inclusion, parce que tu n'es plus obligé d'être un Parisien pour travailler dans une boîte tech qui grandit très vite, et je pense que ça, c'est vraiment important. Et on a aussi des profils très divers en termes de géographie. On a des Américains, des Roumains, des Italiens.
Donc, vous êtes vraiment dans le monde.
Ouais, on est vraiment dans le monde, et je pense qu'il faut être dans le monde pour réussir. Après...
L'offre aussi est dans le monde ?
On est aujourd'hui dans 3 pays, en France, en Espagne et en Belgique, et on continuera à détendre. On vient de lancer Espagne et Belgique, ça commence à très bien prendre. Mais on ne voit pas pourquoi on ne devrait pas avoir l'ambition de construire une boîte globale si tout se passe bien. Il faut toujours mener étape par étape avec beaucoup d'humilité, mais si ça se passe bien, on va continuer.
Et si on parle un petit peu d'écologie quand même dans mon parce qu'on est dans l'empreinte, on aime bien aussi aborder ces sujets-là. Est-ce que comment s'engage Alan de ce côté-là, puisque bah même si donc tout est quand même digitalisé, il y a forcément un impact. On a tous une empreinte. Quels sont les engagements d'Alan?
Je pense qu'il y a plusieurs niveaux où on peut le faire, et on est encore loin d'être parfait. C'est un processus, tu vois, qui se construit.
Je crois qu'il n'y a pas de perfection, parce qu'il y a aussi de l'imperfection liée à la perfection. Parfois, quand on veut trop bien faire, en fait, on se rend compte qu'on pollue sur un autre pendant.
Exactement. Et puis la norme évolue en plus au fur et à mesure. Mais je pense que ce qu'on fait, il y a plusieurs angles. Il y a ce qu'on fait dans le produit. Et en effet, le 100% digital aide à réduire, mais on avait encore pas. Un truc qu'on vient de lancer et que j'aime bien, c'est quand on a une mutuelle, on a une carte de tiers payant. Donc, c'est la carte qu'on va montrer à son pharmacien pour être, ne même pas avoir avancé les frais. Et avant, on avait une carte plastique qu'on envoyait. Et cette année, on a supprimé le plastique. On utilise maintenant du carton recyclable pour faire cette carte. Et surtout, on donne l'option à nos membres s'ils veulent recevoir la carte ou pas. Et ils peuvent avoir juste la version digitale. Mmh. Et ça, ben, on pense que ça va faire beaucoup d'économies postaux, d'impression, de plastique. C'est un détail, mais c'est la manière dont on y réfléchit. On essaie de.
En fait, vous essayez de vous améliorer sur plein de petits.
Exactement.
En interne. Enfin, ouais. Pas qu'en interne aussi, en externe.
Et après, à l'interne, ben, c'est essayer. C'est vraiment aussi de l'éducation en interne de l'équipe sur le tri, la consommation d'électricité. Essayer de s'améliorer en permanence là-dessus. On est en train d'écrire d'ailleurs notre politique environnementale. C'est aussi.
C'est que ça avance, c'était rare. Et moi, je suis contente d'avoir une startup qui n'est pas issue de la green tech parce que j'ai beaucoup dans l'empreinte de startups qui sont même quasiment que ça, qui ont leur business model basé sur la green tech. C'est pour ça que toi, je voulais une autre startup qui n'est pas basée là-dessus. Et on voit maintenant qu'avant, c'était dans les entreprises qu'on avait toute cette charte RSE, que tout, même, voilà, même les startups ont des chartes RSE qui commencent à s'écrire, à s'inscrire et qui ne sont pas forcément. Sur un business model green, quoi.
Non, mais je pense que, en revanche, c'est si on veut être encore relevant dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on n'a même pas le choix. Enfin, après, moi, c'est une question de conviction personnelle sur certains sujets. J'ai quasiment arrêté toute ma consommation de viande pour raisons écologiques.
Tu as posé la question justement toi au quotidien. Ouais. Tu m'as dit en plus que tu étais engagé personnellement. Donc,
Et encore une fois, je suis loin d'être parfait. Et à un moment, j'avais réussi à complètement arrêter la viande. Maintenant, je viens d'avoir un bébé, donc j'en reprends un peu de manière épisodique.
Enfin, moi, je suis flexi. Hein. Moi, je suis obligée d'en manger parce que sinon, je n'ai pas toutes mes vitamines.
Mais c'est ça. T'as vite des carences et j'ai beaucoup de gens qui ont eu des carences autour de moi. Mais c'est juste essayer d'avoir cette réflexion sur ce qui a le plus d'impact. C'est important. Après, on a tous nos incohérences où il m'arrive encore de prendre l'avion souvent, etc. Mais en tout cas, essayer de pousser cette réflexion et la faire diffuser à tous les niveaux personnels et de la boîte. Et
dans l'éducation,
de faire d'éducation. Ouais, exactement, ouais. Éducation de ton enfant. Communication en interne aussi, en quoi c'est important. C'est des trucs sur lesquels on essaie d'avancer. J'aimerais qu'on aille plus vite et qu'on soit meilleur. Mais je pense qu'on y réfléchit déjà pas mal.
Et en termes aussi de recrutement enfin, hommes, femmes, il n'y a pas de...
Là, on est aujourd'hui à 40% de femmes et non-binaires. On pourrait être mieux. On est parti à 0% sur les 8 premiers. Donc, on s'améliore lentement,
c'est quand même
mais sûrement.
Une prise de conscience aussi, en tout disant, ça, c'est important de remettre des femmes.
Oui, et des femmes à tous les niveaux, dans le leadership partout, parce que c'est comme ça qu'il faut commencer à amorcer la pompe pour qu'il y ait des rôles modèles dans la boîte.
Enfin, moi, tu vois, en message, pour le coup, et c'est pas pour dans ces choses, j'ai souvent eu, assez, l'un et l'autre, Sandra, ou alors peut-être que Sandra, en fait, c'était Jean-Paul derrière, mais j'avais Sandra, enfin, j'avais jamais que tout le temps un homme. Tu vois,
non, je pense qu'on s'est beaucoup, beaucoup amélioré, mais on devrait être encore meilleur. Et il y a, en effet, la parité homme-femme qui est un sujet très important. Et sur lequel on bosse. Et je pense que ça demande d'être très actif. Moi, j'aime pas trop la discrimination positive, mais ce que je pense être très important, c'est le sourcing actif. C'est-à-dire, au moment où on va remplir, si on cherche à recruter un nouveau rôle, même si dans le monde, il n'y a que 10% de femmes, nous, dans le sourcing, on doit avoir 50% de femmes. Et ça, c'est, je pense, le truc qu'il faut se forcer à faire, qui est parfois difficile, qui peut parfois ralentir, mais qui est le seul moyen d'y arriver.
C'est recrutement sur le talent. Et c'est ça qui est important. Tu me parles de discrimination positive, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, il ne faut pas juste cocher des cases et des critères. Mais par contre, il faut laisser les mêmes chances à tout le monde.
Exactement.
Tu vas aller chercher ces chances-là, finalement.
Et il faut aller les chercher. Et nous, le deuxième enjeu, c'est aussi une diversité de profils, alors qu'on a avec l'international. Après, on a commencé en étant une boîte qui était plutôt d'hommes blancs de grandes écoles ou des meilleures universités américaines. On a toujours ce biais-là quand même qu'on essaye de corriger. On voit que la diversité a beaucoup de valeur. Donc, c'est un vrai combat qui est difficile, sur lequel on s'est aussi énormément amélioré, sur lequel on doit continuer à investir.
Et donc là, toi, tu as écrit un livre, tu m'as dit récemment, qui s'appelle comment ?
Healthy Business, Culture d'entreprise, Excellence et Bien-être.
Tu vois, bien-être, il y a quand même le côté QVT, côté bien-être. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aussi à Alan là, pour... je sais, en fait, c'est horrible parce qu'en ce moment, je compte en heures, presque en jours à venir, maintenant, peut-être en mois, avec cette Covid. Tu sais, en ce moment, avec nos amis, on est au téléphone. Bon, on fait quoi dans une semaine? Je sais pas, on va déjà voir ce qu'on fait ce week-end et puis on verra dans une semaine. Mais on va dire à venir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Alan? Parce que t'as quand même, enfin, vous avez quand même levé beaucoup, vous êtes dans les top startups au bout de 4 ans.
Je pense que ce qu'il faut nous souhaiter, c'est de réussir à accomplir notre mission. Nous, on sera heureux que si on a transformé pour le meilleur le système de santé en partenariat avec le public, en partenariat avec les professionnels de santé, mais qu'on a fait en sorte que... Tu vois, ce système de santé, il est un peu la conclusion de 50 ans d'industrialisation pour essayer de le faire marcher pour tout le monde. Mais en fait, il ne marche plus très bien pour personne parce que, en fait, personne n'est standard. Et l'industrialisation, ça fait qu'on se retrouve face à un labyrinthe qu'on ne comprend pas. Et nous, notre mission, c'est de faire en sorte que le système de santé se plie en quatre pour toi, si tu es membre d'Alan. Et si on arrive à faire ça, bah, notre succès, c'est un succès qui est net positif pour la société. Bah, qu'une femme enceinte, elle ait l'impression qu'on l'aide chaque jour, chaque minute de cette période, que des gens qui ont un diabète de type 2, on les aide à chaque minute de cette période, que des jeunes parents, on les aide chaque jour à avoir les bonnes réponses, à enlever toute la charge mentale qui est associée à la santé. Et ça, c'est notre job et c'est tout ce qu'il faut nous souhaiter, c'est arriver à enlever cette charge mentale à tous dans la gestion de leur santé, que ce soit l'administratif ou la navigation du système de santé ou l'accès aux meilleurs soins de la manière la plus juste et la plus transparente possible. Et si on fait ça, bah, Alan, en tant que boîte, bah, grandira très bien, continuera à attirer des très bons talents, continuera à s'internationaliser. Mais tout ça ne marche que si on réussit notre mission.
Si vous pouvez avoir aussi un accès au vaccin contre la grippe qui est en rupture de stock et puis au futur vaccin contre le Covid, ça serait
bien.
Parfait. Voilà, tu aurais sauvé le monde à ton échelle.
Il y a d'autres gens brillants qui le font aussi. Donc, mais ouais, on va essayer.
En tout cas, j'étais ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur Deezer, Spotify, Podinstall, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter le podcast. Je vous répondrai. On vous répondra avec l'équipe Bababam. Et je vous souhaite une excellente journée. Bonne écoute.